Voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 3 novembre 2014, en direct du studio 13 à Washington, chez Robin Dorcil et Morgane Guériec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, l'Union africaine donne 2 semaines à l'armée du Burkina Faso pour rendre le pouvoir aux civils.
À Ouagadougou, l'opposition réagit favorablement à cet ultimatum.
C'est très bien. C'est le rôle de l'Union africaine comme ça. Si le pays n'obtempère pas, si le pays ne répond pas, les sanctions donc vont tomber.
À Blassé Ouédraogo. Au moins 15 personnes tuées dans un attentat suicide pendant une célébration chiite dans le nord-est du Nigeria.
République démocratique du Congo, situation toujours volatile à Beni dans le nord Kivu, où des affrontements ont été signalés aujourd'hui entre armées congolaises et rebelles ougandais.
Violence en Irak alors que les chiites fêtent l'Ashura.
Ici aux États-Unis, les Américains se rendent aux urnes demain pour les élections de mi-mandat.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
L'Union africaine a donné 2 semaines à l'armée du Burkina Faso pour rendre le pouvoir aux civils après qu'un officier a pris vendredi la tête de l'autorité de transition pour remplacer le président Blaise Compaoré après sa démission. Nous demandons aux forces armées de transférer le pouvoir aux autorités civiles et le Conseil a décidé que ce transfert devrait s'opérer dans une période de 2 semaines, a déclaré Siméon Oyono Essono, chef du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et ambassadeur de Guinée équatoriale auprès de l'organisation continentale citée par l'AFP.
À défaut, le pays s'exposerait à des sanctions, a-t-il ajouté, à l'issue d'une réunion du Conseil au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis ont tous réclamé ces derniers jours que l'armée rende le pouvoir aux civils. À l'issue du délai de 2 semaines décrété par l'UA, cette dernière dépêchera un envoyé spécial dans le pays et se réunira à nouveau afin d'examiner la situation et décider des mesures à prendre.
L'ancien ministre des Affaires étrangères, Blassé Ouédraogo, coordinateur des activités de l'opposition derrière le chef de file Zéphirin Diabré, soutient l'ultimatum lancé aujourd'hui par l'Union africaine. Nicolas Pinault l'a joint à Ouagadougou.
C'est très bien. C'est le rôle de l'Union africaine comme ça. Si le pays n'obtempère pas, si le pays ne répond pas, les sanctions donc vont tomber. L'Union africaine décide et toutes les autres structures de coopération internationale, nous n'avons pas besoin de ce cas de figure pour le Burkina Faso. Les coups d'État militaires ne sont plus acceptés dans ce monde. Pour éviter cela, nous avons donc été très heureux au cours de la rencontre que nous avons eue hier, dimanche, à 16h, au Conseil économique et social, avec le lieutenant-colonel Zida. Nous avons été agréablement surpris de voir qu'il accepte de retourner à la légalité constitutionnelle en levant la suspension qui pesait sur la Constitution. Et à partir de cela, nous allons donc avoir une transition qui sera une transition légale, une transition civile. Et la structure de transition sera organisée dans un délai qui ne dépassera pas novembre 2015, une élection présidentielle propre, transparente, équitable.
Aujourd'hui, ce lundi, est-ce que vous avez déjà un calendrier plus précis? Quand est-ce qu'ils vont vraiment rendre le pouvoir?
Disons qu'au moment où je vous parle, nous n'avons rien de concret dans la main, mais au cours de la rencontre d'hier, le colonel Zida a promis de nous remettre donc un projet et nous attendons donc de recevoir ce document-là. Nous allons l'enrichir et très vite, tout ce que vous dites là, c'est-à-dire une feuille de route, une charte de la transition et probablement une équipe de la transition seront mises en place. Je pense que dans les prochains jours, ça va aller très vite.
Est-ce qu'Blassé Ouédraogo est candidat pour diriger cette transition civile?
À cette question, je réponds toujours que je suis un fils de ce pays, je suis un patriote. Et je pense que si le devoir m'appelle, et je le ferai comme les autres fils patriotes de ce pays.
Ablassé Ouédraogo, coordinateur des activités de l'opposition, joint par Nicolas Pinault.
Le journaliste d'investigation Newton Ahmed Barry sera notre invité d'ici quelques instants. Mais juste avant, revenons à l'opposition burkinabé, dirigée par Zéphirin Diabré, qui a donné une conférence de presse ce soir pour faire le point sur la transition. Notre correspondant Zoumana Ouenogo était sur place.
L'opposition nous a advis saluer la disponibilité des militaires de ne rien décider sans l'avis des forces vives. Et pour cela, elle salue aussi la disponibilité et cet esprit de recherche du consensus par la jeunesse militaire.
Qu'en est-il de la demande de transfert de pouvoir aux civils ?
Le chef de file de l'opposition nous a rassuré la disponibilité des militaires à passer le pouvoir aux civils. Mais cela ne peut se faire sans concertation. C'est pour cela que le chef de la junte va remettre un document, une sorte de cadre ou de charpente de l'organe de transition et aux partis politiques, donc au chef de file de l'opposition et aux OSC, les organisations de la société civile, pour que chaque membre, chaque parti amende la charpente, l'architecture ou le squelette de cet organe. Et ensemble, ils vont se retrouver pour savoir, la charpente étant déjà là, ce qu'il faut y mettre dedans, nous a dit le chef d'équipe de l'opposition, ça devient plus facile quand on a déjà la charpente.
Et a-t-on quelques informations sur cette charpente ?
Le chef d'équipe de l'opposition a reconnu avec les journalistes que franchement, le temps presse, l'incertitude qui règne autour de la gestion de cette transition commence à peser un peu lourd sur le dos des Burkinabés. Donc, il nous a promis qu'ils vont aller vite, mais il ne s'agit pas d'aller de façon précipitée, il faut aller vite, mais bien. Et dans ce cadre, les concertations de la junte militaire continuent. La communauté internationale, ou du moins les observateurs, Union africaine, CDAO et ONU, qui étaient venus au premier jour, était reparti. Donc la délégation revient ce soir même encore à Ouaga pour continuer les concertations.
Voilà, c'était notre correspondant Zoumana Ouenogo. Le journaliste d'investigation Newton Ahmed Barry, souvent inquiété par l'ancien régime à cause de ses enquêtes sur la mort de Norbert Zongo et celle du juge Salifo Nébié, regrette que la justice n'ait pas mis en quarantaine la maison de François Compaoré qui a été pillée, alors que des documents importants permettraient d'aboutir à des éclaircissements sur ces deux assassinats. Au micro de Nathalie Barge, il nous livre d'abord sa sur la situation au Burkina Faso.
L'Est avait cru que le Burkina Faso était sa chose et qu'à la limite, il pouvait en disposer comme il voulait et qu'il pouvait aussi donner un héritage à ses descendants. Et c'est pour ça que toute contestation, évidemment, était durement réprimée, en tout cas, sévèrement, en tout cas, surveillée.
Par rapport à ce qui vous est arrivé à vous, parce que vous enquêtiez sur la mort du juge Salif Nébié, donc est-ce que aujourd'hui vous avez espoir finalement de pouvoir poursuivre cette enquête sans problème ?
Il y a beaucoup de dossiers qui devaient se lucider très très rapidement. C'est dommage que, par exemple, le pillage de la maison du président de France à Compaoré, on a trouvé un certain nombre de documents. Dommage que la justice n'ait pas mis la maison en quarantaine, essayer véritablement de préserver ces documents et de les authentifier aussi. Parce que certains des documents qui circulent aujourd'hui, évidemment, permettent d'aller très vite à l'enquête du dossier Norbert Zongo et probablement aussi dans les autres dossiers, dont celui de Nédé, façon à quoi on appelle Salif Nédé, qui était le juge constitutionnel.
C'était le journaliste d'investigation Newton Ahmed Barry, joint par Nathalie Barge. Alors que la communauté internationale et les forces vives du Burkina insistent sur une gestion civile de la transition à Ouagadougou, la situation politique au Faso reste toujours dans l'incertitude. Un flou règne autour de la gestion de la transition, 4 jours à peu près après la chute du régime de Blaise Compaoré. La junte militaire du lieutenant-colonel Yacouba Zida est-elle prête à passer la main ? A-t-elle le choix ? Des réponses dans ce reportage de Zoumana Ouenogo.
Le dimanche dernier aura donné une fois encore les preuves des atermoiements et des voix discordantes au sein des forces vives et de la classe politique. Toute chose qui a poussé la junte militaire à sortir ses griffes. Écoutons le colonel Auguste Barry, porte-parole de la junte.
Les forces armées nationales tiennent à rappeler qu'elles n'ont jamais voulu interférer sur les activités politiques et que si elles se retrouvent aujourd'hui à assumer le leadership dans le processus de transition à cette étape, cela a été consécutif à l'appel de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment dans le sens de la prise de leurs responsabilités face à un chaos qui aurait pu s'installer dans notre pays. C'est donc un acte hautement patriotique et il apparaît alors incompréhensible que pendant que nous nous attelons à remettre de l'ordre et à assurer la sécurité des biens et des personnes, que des citoyens se permettent ce qu'il convient de qualifier d'acte d'irresponsabilité totale. Nous voulons rappeler que si les forces vives pensent s'être trompées, il est encore temps de revenir nous voir, pas par la rue, mais plutôt par la voie empruntée antérieurement, notamment la concertation. L'armée se retirerait alors et laisserait ceux qui pensent à cette étape être à même de faire sortir notre pays de la situation difficile actuelle.
Nous avons pu avoir le colonel Barry pour lui poser la question que beaucoup de Burkinabés partagent d'ailleurs, à savoir le sentiment que les militaires tiennent à rester au pouvoir. Voici ce qu'il a répondu.
Personne n'est intéressé par cette affaire.
Pas du tout.
Sinon, on aurait manifesté, n'est-ce pas, des signes depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment circonstanciel et c'est le fait, n'est-ce pas, de les forces vives et du fait également de notre volonté, n'est-ce pas, de contribuer à ce que la situation se normalise.
Se référant à l'histoire de la junte militaire en Guinée-Conakry avec le capitaine Moussa Dadis Camara, beaucoup de Burkinabés ont des doutes sur les intentions du lieutenant-colonel Yacouba Zida à remettre le pouvoir aux civils pour la transition. Suivant l'avis de Daouda Diallo, juriste et analyste politique.
Le colonel Zida doit pouvoir sortir par la grande porte. Et lorsque on dit que l'ensemble de l'armée burkinabé s'est réunie pour le désigner comme étant le chef de la transition et que nous le fassions sortir par la petite porte, c'est l'ensemble de l'armée burkinabé qui est fragilisé. Et il faut l'éviter à tout prix. Il faudrait qu'il puisse récupérer la situation, dire à la population, c'est vous qui êtes venu dire que vous voulez un militaire, nous avons répondu à votre appel, c'est vous qui vous rétractiez en disant que vous ne voulez plus le militaire, vous voulez un civil. Ok, on va vous remettre le pouvoir, mais dans la situation volatile dans laquelle nous nous trouvons, il faut stabiliser le Burkina Faso, il faut arrêter les troubles qu'il y a, les vandalismes et autres actes de brigandage et procéder maintenant à un travail qui va pouvoir permettre de mettre en place des institutions démocratiques et éviter au Burkina Faso ce qui se passe dans d'autres pays. On peut lui donner 3 semaines, 1 mois, deux mois, même 2 mois, le temps de stabiliser.
Zoubana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Voilà pour ce segment sur le Burkina Faso. Dans le reste de l'actualité, au moins 15 personnes ont été tuées par un attentat suicide pendant une célébration chiite dans le nord-est du Nigeria. Et plus de 130 prisonniers ont pris le large hier dans l'attaque d'une prison dans le centre du pays. Idriss Fall.
Selon l'agence France Presse, 15 personnes sont mortes et près de 50 ont été blessées dans un attentat suicide à Port-Sikoum, capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. D'après Mustapha Lawan Nassiri, chef de la communauté chiite de la ville, l'attaque a eu lieu à la fin de la procession de l'Ashura, la grande fête chiite pour commémorer l'assassinat de l'imam Hussein. Il a ajouté que d'autres personnes ont été tuées lorsque des soldats ont ouvert le feu en représailles peu après l'explosion, mais n'a pas donné de bilan. En juillet dernier, 4 chiites avaient été tués dans l'attaque d'une mosquée en plein air à Port-Sikoum. Par ailleurs, dans l'état de Kogi, dans le centre du pays, 132 prisonniers se sont évadés lorsque des assaillants ont pris d'assaut la prison de Korton Karfé. L'établissement pénitentiaire avait déjà été la cible d'une attaque de Boko Haram en 2012.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont opposé l'armée congolaise et de présumés rebelles des forces démocratiques alliées cet après-midi près de Beni. D'après les autorités, les accrochages avec le groupe musulman ougandais ont eu lieu dans le parc national des Virunga. Un otage aurait été libéré. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, cité par l'AFP, explique que les combats ont dû cesser avec la nuit car, je cite, « on ne voit pas l'ennemi et on risque de tomber dans une embuscade ». Rappelant que Beni a récemment été le théâtre de 2 massacres et en fait une 40aine de morts.
En République démocratique du Congo, toujours, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées lors d'un sit-in appelé par l'opposition. Les manifestants exigeaient un dialogue avec le pouvoir et protestaient contre toute tentative de révision de la Constitution, ainsi que le respect de la date des prochaines élections en 2016. Eddy Sango a joint le président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, Vital Kamerhe.
58 au total. Et ils étaient tous là, ils ont gardé leur morale haut et continuaient d'ailleurs, au contraire, à moraliser les policiers pour dire vous devez suivre l'exemple de vos amis de Burkina Faso qui ont préféré protéger le peuple qui revendiquait ses droits. Et nous voulons savoir pourquoi, depuis les élections chaotiques de 2011, nous ne nous sommes jamais rencontrés avec nos amis de la majorité au pouvoir pour tirer les leçons de ces mauvaises élections, pour éviter la répétition des mêmes erreurs pour le processus à venir. Nous voulions nous rencontrer pour qu'ensemble nous puissions adopter un calendrier consensuel et qui reprend toutes les étapes des élections jusqu'en 2016. Nous voulions nous rencontrer pour avoir une feuille de route consensuelle, nous rencontrer pour que nous puissions tous dire haute et intelligente voix que nous allons respecter la Constitution, qu'il n'y aura pas de copiage au niveau de la Constitution, qu'il n'y aura pas de révision des Constitutions. Et que ces deux mandats pour chaque président de la République, point barre. Et Kabila a encore l'avantage, comme il n'a pas encore parlé, il veut désavouer tous ceux qui ont parlé à son nom pour dire que lui, il veut respecter la Constitution. Il entrera dans l'histoire de ce pays. La mouvance que celle-ci comptait beaucoup sur l'expérience de Blaise Compaoré, ils étaient tellement convaincus qu'ils ont envoyé des délégués là-bas à Ouagadougou pour apprendre comment modifier la Constitution ou faire le passage en force à l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'ils sont allés pour les faire compte et ils doivent tirer les leçons de tout cela.
Voilà, c'était Vital Kamerhe, président du parti Union pour la Nation Congolaise.
Au Mali, dans la région de Gao, deux soldats maliens ont été tués et quatre autres blessés hier dans l'explosion d'une bombe. Tel est le bilan donné par le gouvernement malien dénonçant un acte terroriste.
Raid dans l'est libyen, des forces pro-gouvernementales ont lancé une attaque à l'arme lourde autour du port de Benghazi pour tenter d'en chasser les islamistes. C'est ce que disent des témoins et des sources militaires citées par l'agence France Presse. Et des affrontements ont aussi été signalés à Al-Liti, un autre quartier connu pour être un fief des islamistes radicaux, selon un correspondant de l'AFP.
Environ 2000 soldats angolais, dont des équipes médicales, des transporteurs de troupes mécanisées et deux bataillons, vont bientôt se joindre à la mission de paix internationale en République centrafricaine. Le président José Eduardo dos Santos en a fait part aux législateurs angolais, selon des sources parlementaires à Luanda. Les unités prévues pour ce déploiement sont déjà prêtes, rapporte le journal O País dans sa version en ligne. La décision de l'Angola fait suite à une requête de la présidente centrafricaine, Catherine Samba-Panza, de l'Union africaine et des Nations unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les élections controversées dans les territoires contrôlés par les combattants pro-russes dans l'est de l'Ukraine ont confirmé dans leurs fonctions les chefs rebelles désignés au mois d'août. Kiev et les Occidentaux ne reconnaissent pas ce scrutin. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Les séparatistes sont allés aux urnes dimanche pour désigner les dirigeants des parlements dans les parties des régions de Donetsk et Luhansk qu'ils contrôlent. Le premier ministre par intérim de la République populaire de Donetsk, Alexander Zakharchenko, a été élu à la tête de ce territoire, remportant environ 79% des voix. Idem pour le premier ministre par intérim de la République populaire de Luhansk, Igor Plotnitsky, qui conserve le leadership de son territoire avec environ 64% des suffrages. L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis ont déclaré illégale l'élection organisée par les rebelles, affirmant qu'elle violait la constitution de l'Ukraine et l'accord de cessez-le-feu signé le 5 septembre par les séparatistes et le gouvernement ukrainien. La nouvelle patronne de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré que l'Union européenne ne reconnaîtrait pas le vote, qu'elle a qualifié de nouvel obstacle sur la voie de la paix en Ukraine. Le vice-premier ministre russe Grigory Karasin a appelé lui. Aujourd'hui, le gouvernement ukrainien a renoncé aux opérations militaires dans le sud de l'Ukraine. Pour Moscou, l'élection de dimanche a donné aux leaders séparatistes pleine autorité pour établir un dialogue ouvert et durable avec les autorités de Kiev.
L'État islamique a revendiqué ce lundi plusieurs attentats à la voiture piégée à Bagdad qui ont fait des dizaines de morts hier. Le groupe se félicite d'avoir déjoué le dispositif de sécurité renforcé dans le pays pour les célébrations de la grande fête chiite de l'Ashura, Jacques Aristide.
Le gouvernement irakien a déployé des dizaines de milliers de policiers et de soldats dans la capitale et sur la route menant à Kerbala. Les pèlerins chiites sont en train de converger vers cette ville sainte à l'occasion de l'Ashura. Ailleurs, en Irak, plus de 200 membres, dont des femmes et des enfants de la tribu sunnite Albu Nimr, dans la province d'Anbar, ont été exécutés ces derniers jours par les djihadistes, d'après les autorités locales. Un massacre commis en représailles contre la résistance opposée par cette tribu. En Syrie, l'organisation terroriste a décapité 8 rebelles syriens dans la ville de Boukamal, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Leurs dépouilles ont été exhibées sur des croix d'après l'ONG. Sur le front de l'offensive anti-État islamique, le New York Times rapporte que les forces irakiennes s'apprêtent à lancer une importante campagne militaire. Les Irakiens seront soutenus par les bombardements aériens et des centaines de conseillers militaires de la coalition internationale dirigée par les Américains.
François Hollande, en tournée au Canada, le président français devait prendre la parole aujourd'hui au Parlement pour renouveler l'engagement de son pays et d'autres partenaires dans la lutte contre l'État islamique. Auparavant, le président français et le premier ministre canadien Stephen Harper ont abordé la situation en Irak et en Syrie dimanche, le jour même où le Canada a effectué ses premières frappes en Irak contre les djihadistes. Voilà pour notre journal. Chez Robin Dorsil et Morgane Guerriec en votre compagnie. Restez branchés.
Nous vous en parlions dans le journal. La tension reste vive dans l'est de la RDC, malgré la visite la semaine dernière du président congolais Joseph Kabila. De nouvelles attaques ont eu lieu ce week-end, coûtant la vie à 11 personnes. La population est exaspérée. Teddy Katalico, président de la société civile du territoire de Béni.
Une situation catastrophique qui est en train de se passer en ville comme en territoire de Béni, où 16 civils qui ont été massacrés à l'espace de 32 jours. La population a été massacrée. Essentiellement, sa visite était une visite de compassion, où il a eu à faire une consultation de toutes les couches de la ville comme du territoire de Béni. Ces couches ont eu à présenter l'analyse du contexte et qu'il passe du contexte. Ce qui peut être à la base et aussi certaines pistes de solutions par rapport à la résolution de la crise.
Selon vous, la situation en territoire de Béni peut-elle être résolue uniquement par des moyens militaires?
Oui, nous, à notre niveau, à Releva, donc en voyant le contexte, nous avons vu que tout cela était dû au relâchement des opérations militaires qui étaient à cours, qui avaient commencé au mois de janvier. Et subitement, on a vu autant toujours les opérations s'arrêter. Et cela a été à la base de certains relâchements des opérations. Et ça s'est répercuté sur la situation, tout en sachant que les ADF Nalu ont été juste dispersés à pleine forêt, à plein parc national de Virunga. Et cela lui a permis de se réorganiser 3 mois plus tard. Et aussi, on a trouvé qu'il y a certaines zones qui n'avaient pas été touchées par ces opérations, où les rebelles ADF Nalu ont eu à déplacer juste leur quartier généraux vers la partie ouest, mais aussi vers une autre partie du secteur de Rwenzori. C'est à ce niveau-là où se situe le problème. Et malheureusement, il y a eu relâchement et le MENI a eu à se réorganiser. Et pour le moment, étant spécialisé dans les opérations de terroristes, notamment dans la guérilla, c'est comme ça qu'il est en train de s'apprendre à la population de Eringeti à Béni. Donc les derniers cas à date hier, 11 civils ont été tués encore une fois en arme blanche, à la machette. Ça y est une intervention militaire.
Teddy Katalico, président de la société civile du territoire de Béni.
Et ici aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les élections de mi-mandat de demain mardi. Et selon les derniers sondages d'opinion, les adversaires républicains du démocrate Obama semblent avoir le vent en poupe. Idrissa Seloudia.
Les candidats mettent les bouchées doubles pour mobiliser leurs partisans et convaincre les soi-disant électeurs encore indécis. Michelle Nunn est la fille de Sam Nunn, légendaire sénateur démocrate de Géorgie. Elle est candidate cette année à la Chambre haute à Washington. Nous rappelons à tout le monde le pouvoir de faire la différence dans cette élection en allant voter. Les deux grands partis, montrant ainsi l'importance du scrutin de mardi, ont déployé la grosse artillerie pour appuyer leurs candidats respectifs. Les anciens candidats à la présidence Mitt Romney et John McCain chez les Républicains et l'ex-président Bill Clinton et son épouse, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, chez les Démocrates. Une absence remarquée, celle du président Obama. Sa cote de popularité ayant baissé, les candidats démocrates qui se sentent déjà vulnérables trouvent plus sage de prendre leur distance vis-à-vis de la Maison-Blanche. Malgré tout, le président a été battre campagne récemment dans le Michigan. Je veux vous dire pourquoi vous devez aller voter. Ce pays a fait des progrès réels depuis la pire crise économique que nous ayons vécue récemment. Au cours des derniers 4 ans et demi, nous avons vu les entreprises américaines créer plus de 10 millions de nouveaux emplois. Ces 6 derniers mois, notre économie a connu la plus forte croissance que nous ayons eue depuis plus de 10 ans. L'analyste politique Norm Ornstein de l'American Enterprise Institute.
Barack Obama finds himself in the same kind of position that Bush did 6 years ago.
Barack Obama se retrouve dans la même position que son prédécesseur George W. Bush il y a 6 ans. Pour un grand nombre de ses propres candidats, il était persona non grata, à part quand il s'agissait de lever des fonds. Ils ne veulent pas être vus en compagnie du président pendant qu'ils battent campagne. En revanche, les républicains insistent pour lier leurs adversaires démocrates au président. Par exemple, le candidat Scott Brown, qui brigue un poste de sénateur au New Hampshire. L'agenda Obama-Shaheen s'arrête ici, ici même. On s'attend à ce que les républicains gardent leur contrôle de la Chambre des représentants. Il leur faut un gain net de 6 sièges pour arracher aux démocrates le contrôle du Sénat. De nouveau, Norm Ornstein de l'American Enterprise Institute. Nous avons une idée plutôt claire que les tendances sont favorables, comme elles le devraient normalement, au Parti républicain. C'est-à-dire que le parti qui n'occupe pas la Maison-Blanche fait toujours de bons scores aux élections de mi-mandat. C'est dur pour les démocrates, il y a une route pour conserver la majorité au Sénat. Les républicains, eux, ont plusieurs routes pour acquérir la majorité. Les démocrates estiment qu'avec une bonne mobilisation de leur base, les prédictions des sondages ne se réaliseront pas. En attendant, les républicains sont de plus en plus confiants dans leur victoire mardi. Mais comme d'habitude, le dernier mot appartient à ceux des électeurs qui se rendront aux urnes.
L'actualité sportive tout de suite avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chirouin, bonsoir à tous.
La Confédération africaine de football maintient les dates de la CAN 2015.
Oui, la CAF a refusé la demande de report du tournoi par le Maroc, pays organisateur, en raison de l'épidémie Ebola. L'unanimité s'est faite sur le maintien de la compétition aux dates initialement convenues, à savoir du 17 janvier au 8 février 2015, explique l'instance du football africain dans un communiqué. Ces dernières semaines, l'organisation a sondé d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana et l'Algérie en leur demandant s'ils étaient prêts à reprendre l'organisation au pied levé.
Déçus, les Dauphins Noirs sont rentrés à Kinshasa hier soir.
Oui, l'AS Vita Club a fait match nul 1-0 contre le Sétif, donc insuffisant après le match nul 2-2 concédé au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Écoutez la déception bien sûr de Florent Ibenge, il est l'entraîneur des Congolais.
On savait que ce match allait être un peu compliqué, on avait bien deviné le scénario, c'est-à-dire qu'après le match aller, ils allaient défendre comme ils l'ont fait à Kinshasa et puis procéder par des contres. Nous, il fallait absolument qu'on marque. Et pour ça, il fallait à la fois attaquer, mais ne pas trop se dégarnir. Donc c'est ce qu'on a fait en conservant le ballon. On l'a bien conservé, on les a fait courir. En deuxième mi-temps, ça a été encore plus flagrant. Malheureusement, on commet une petite erreur. Une petite erreur, mais aussi parce qu'ils ont aussi du talent. Le joueur qui est rentré, Belhamri, il a sorti une très belle action. Il a fait un très beau débordement et un beau centre. Et ils ont marqué là-dessus. Mais on n'a pas abandonné, on est resté dans notre philosophie, on a continué à bien pousser et à pratiquer un beau football, dénué malgré tout de beaucoup d'occasions, mais 4 minutes après ce but, on est revenu au score et on a poussé, mais malheureusement on a été un peu défaillant à partir de la surface de vérité adverse. Les 20 derniers mètres, on n'a pas été transcendant, donc c'est ce qui explique qu'on n'a pas pu marquer ce second but qui nous aurait amené vers le bonheur.
Voilà, sans l'amertume, hein, dans la voix de Florent Ibenge au micro de Top Congo, notre partenaire à Kinshasa.
Merci Begasikoura pour les sports. C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma, à la présentation chez Romain Dorsil
et Morgane Guériec.
Restez à l'écoute pour un spécial Burkina Faso, une émission interactive présentée dans quelques instants par Nicolas Pinault.